La semaine de l'art.
Le magazine radio de la Tribune de l'Art.
Bonjour et bienvenue dans cette 27e émission de la Semaine de l'Art avec notre invité aujourd'hui, Emmanuel Starkey, qui est, et alors j'avais exprimé ma petite carte d'Emmanuel Starkey pour dire exactement son titre, et finalement je l'ai perdu, donc vous allez nous dire votre titre, Emmanuel.
Directeur des musées et de Maine, de Compiègne et de Blérancourt.
Voilà, donc Compiègne et Blérancourt, donc nous parlerons bien sûr du château de Compiègne, très largement également du château de Blérancourt et du musée de
franco-américain,
voilà. Et tout d'abord, bien sûr, comme d'habitude, une chronique. Une exposition que nous n'avons pas encore vue sur les décors religieux de Maurice Denis au Vésinet vient de s'ouvrir au musée départemental de Saint-Germain-en-Laye. Nous avons reçu hier son catalogue, envoyé par le commissaire de la rétrospective, Fabien Stahl, historien de l'art, co-responsable du catalogue raisonné de l'œuvre de l'artiste. Celui-ci était accompagné d'un petit mot très aimable expliquant que sans le premier article que nous avions consacré rapidement à l'incendie de 2009, qui avait partiellement dévasté une des chapelles du Vésinet, rien n'aurait peut-être été possible pour la renaissance de ces décors. Nous ne sommes pas sûrs d'être vraiment pour grand-chose dans cette réussite. Il faut surtout souligner l'intervention directe à l'époque du ministre de la Culture, c'était alors Frédéric Mitterrand, une fois n'est pas coutume, mais aussi l'engagement de la DRAC Île-de-France et de la ville du Vésinet dans ce chantier qui a permis de sauver l'œuvre de Maurice Denis. Tout cela pour faire deux constats. Le premier, bien loin de ne rapporter que de mauvaises nouvelles, la Tribune de l'Art s'attache aussi souvent que possible à parler aussi de ce qui marche bien. Nous n'y pouvons rien si nos critiques sont souvent plus reprises que nos louanges, et nous essayons, autant que faire se peut, de juger honnêtement des actions de chacun. Critiquer ne veut pas seulement dire, même si c'est un sens qu'on donne souvent à ce mot, dire du mal. On peut aussi être critique en bien, et ce n'est d'ailleurs pas notre invité Emmanuel Starkey qui dira le contraire, puisque nous avons souvent, pas toujours, mais souvent, été en phase avec ses actions, et dit du bien de ses expositions, notamment. Le second constat, et nous serons volontairement ici modestes, est qu'incontestablement l'audience de la Tribune de l'Art nous donne une véritable influence sur certains dossiers, et permet parfois de faire bouger les choses dans le bon sens. Nous ferons un jour la liste des combats que nous avons menés et qui ont été couronnés de succès. Parmi ceux-ci, on citera par exemple l'église d'Arc-sur-Tille, dont on nous a dit sur place, lorsque nous nous y sommes rendus, après que les travaux de restauration de l'édifice eurent commencé, que nos articles avaient fortement contribué à ce sauvetage. Si malheureusement on ne peut pas en dire autant des églises d'Abbeville et de Jetté, avoir aidé à sauvegarder ce bel édifice néoclassique ne peut que nous réjouir. Autre exemple, que nous citons souvent, l'hôtel de la Marine, qui a échappé aux griffes d'Alexandre Allard et Renaud Denis de Vabre, en partie grâce à nous, et à quelques autres, comme Alexandre Gaddy, Olivier Drouan, Vincent Noce, ou encore Adrien Goetz, nous en oublions probablement qu'ils veuillent nous en pardonner. Car pendant 2 ans, nous n'étions pas très nombreux à nous battre contre le projet de transformation et de privatisation de ce monument. Le plus bel hommage est celui que nous a rendu bien malgré lui l'ancien ministre de la Culture Denis de Vabre, dépité d'avoir raté son coup. Bref, la Tribune de l'Art ne se contente pas de faire du journalisme. Elle fait du journalisme engagé au service de la protection du patrimoine et des musées. C'est pour cette raison que l'essentiel des articles d'actualité du site sont et resteront en accès libre, car c'est le seul moyen pour que nous puissions être largement lus et relayés dans le combat. Mais c'est aussi pour cela que nous développons, à côté de plus en plus d'avantages pour les abonnés payants, et, corrélativement, de moins en moins de choses seront accessibles gratuitement pour les non-payants. Nous avons donc lancé une opération visant à trouver 500 abonnés supplémentaires d'ici la fin de l'année. Nous avons besoin de ces ressources pour recruter et développer encore le nombre d'informations traitées. N'hésitez pas à vous abonner. Pour 40 euros par an, vous ne trouverez aucun journal consacré à l'histoire de l'art et du patrimoine qui vous donnera autant d'informations inédites. Je me tourne donc vers Emmanuel Starkey. Vous êtes d'abord historien de l'art, conservateur du patrimoine. Comment êtes-vous arrivé à l'histoire de l'art? Je crois que votre spécialité au départ, c'est les peintres nordiques. Donc pourquoi les peintres nordiques? Et votre premier poste était à Dijon au Louvre. Racontez-nous un peu votre parcours, voilà.
Alors au début, il y avait une sorte de passion, effectivement, pour les écoles du Nord, pour notamment les peintres hollandais, et plus particulièrement encore pour Rembrandt. J'ai passé lycéen beaucoup de temps dans les musées, et puis après, au moment du bac, j'ai choisi de faire de l'histoire de l'art. j'ai continué à travailler, je dirais, d'une façon un peu solitaire sur les écoles du Nord et sur Rembrandt. Et puis, j'ai passé le concours et j'avais déjà travaillé comme vacataire au département des arts graphiques du Louvre, où quelqu'un qui était une personnalité très marquante, Roselyne Bacou, m'avait repéré. Et donc... J'ai eu mon premier poste donc en tant que conservateur responsable des écoles du Nord au département des arts graphiques. On appelait ça le cabinet des dessins au départ, ça a changé quelque peu de nom, mais la collection est merveilleuse. Alors j'ai fait deux expositions importantes et d'autres qui m'ont passionné, une exposition sur la collection de Rembrandt, une autre sur la collection de dessins de Dürer, pas seulement au Louvre d'ailleurs, dans les collections publiques parisiennes. À chaque fois, c'était, je dirais, une sorte de bilan, d'état des lieux sur des collections qui sont parmi les trois premières d'Europe et donc du monde. Donc voilà, il y a eu une première formation sur un domaine qui était absolument essentiel à l'art. Mais qui était aussi en France, enfin il y avait Jacques Foucard au département des peintures, mais il y avait aussi l'Institut néerlandais et une personnalité qui n'est plus là non plus, Carlos van Hasselt, qui était le directeur de la Fondation Custodia, donc qui m'ont beaucoup encouragé. Alors Roselyne Bacou était quelqu'un d'absolument extraordinaire, qui était spécialiste de dessin italien, mais sa curiosité, son spectre d'intérêt était très très large, et elle était très encourageante vis-à-vis de personnes qui ne travaillaient pas dans son domaine.
Et donc finalement, donc vous êtes resté au Louvre combien de temps à peu près ?
Oh, je suis resté au Louvre de 85 à 91.
D'accord, et vous êtes parti là, à Dijon, où je me trompe.
Absolument.
Voilà, oui. Dijon, au musée des Beaux-Arts de Dijon, pour prendre la tête. Alors, du musée.
Oui, enfin, c'était un peu particulier, puisque tout en étant conservateur au département, au cabinet des dessins, on m'avait déjà proposé de m'occuper du musée Magnin, où j'ai rénové le musée Magnin, à la suite d'Arnaud Bréjon, qui avait été conservateur, qui m'était lui au département des peintures. Donc j'ai rénové le musée Magnin, et à la suite de quoi, effectivement, on m'a demandé si je prenais la tête du musée des Beaux-Arts de Dijon.
Et donc à l'époque, vous aviez les deux musées, vous aviez les
absolument,
deux musées.
Absolument.
Alors qu'aujourd'hui, effectivement, maintenant, Rémi Cariel, il y a un conservateur unique pour le musée Magnin, et un conservateur différent pour le musée des Beaux-Arts de Dijon. Et donc, arrivé au musée des Beaux-Arts de Dijon, vous n'avez pas tout à fait quitté, en tout cas, les Nordiques, puisque, alors, c'est bien après que vous soyez arrivé. 91, c'est ça, vous êtes arrivé au musée des Beaux-Arts de Dijon. La Tribune de l'Art, en 2004, donc c'était à peine un an après sa naissance, avait chroniqué déjà Rembrandt et son école dans les collections du musée national de l'Ermitage de Saint-Pétersbourg.
Alors, bon...
On saute des étapes.
Voilà. J'ai mené à Dijon une politique qui était une politique de restauration des collections, notamment concernant les primitifs allemands, d'acquisition, d'exposition temporaire. Et parmi, je dirais, les expositions temporaires auxquelles je me suis beaucoup attaché, il y avait une politique de rapprochement avec les pays dits de l'Est autrefois, la chute du mur m'ayant encouragé à aller vers eux. D'autres personnes m'ont encouragé, comme Irène Bizot par exemple, et Michel Laclotte. Donc je suis allé à l'Ermitage et je leur ai dit, en gros, le mur étant tombé, accepteriez-vous de faire une exposition sur l'histoire des collections de l'Ermitage, et notamment sur Catherine II, sur les collections nordiques de Catherine II. Jamais il n'y avait eu d'exposition sur ce thème-là. Et M. Pietrowski, le directeur de l'Ermitage de l'époque, qu'il est toujours, a eu la grande générosité, alors qu'il ne me connaissait pas, de dire ben d'accord, je vous prêterai tout ce que vous voulez, sauf Rembrandt. Alors évidemment, moi qui avais toujours travaillé sur Rembrandt, c'était un peu dur d'entendre ça. Mais c'était une sorte de non-donnant, donc j'ai accepté, j'ai eu pas mal de Rubens, mais pas de Rembrandt, et après, je me suis rattrapé, si on peut dire, j'ai fait aussi à Dijon une exposition
sur
Rembrandt et son école au musée de l'Ermitage. Mais j'ai fait d'autres expositions à Dijon qui visaient effectivement à faire connaître en France l'art Donc, par exemple,
Dresde.
Hongrois.
Hongrois, oui.
L'art hongrois. L'art tchèque, Prague, 1938. Qui ont été à chaque fois des moments assez magiques, hein, sans allusion au Praga Magica, mais c'était basé sur la notion d'échange artistique entre ces pays-là et la France, et cela visait clairement à permettre au public français et étranger, bien sûr, de découvrir la nature même, l'originalité de l'art de ces pays. Autrement dit, par exemple, pour Budapest, il y avait l'évocation de la formation des artistes hongrois en Allemagne, notamment à Munich, puis à Paris, puis, je dirais, l'éclosion d'une école hongroise comme celle de Nagy Banya. Donc c'était à chaque fois quelque chose d'assez fascinant parce que on avait l'impression d'ouvrir des voies qui jusqu'à maintenant n'avaient pas été forcément traitées. Alors pour Prague, il y avait eu des expositions, il y avait eu une exposition à Beaubourg sur le cubisme tchèque, mais il n'y avait jamais eu d'exposition qui fasse la synthèse comme nous l'avons fait, et avec une grande partie, par exemple, de la collection Kramash. Et puis, cette évocation du cubisme tchèque, du constructivisme, etc.
Sur l'art plus ancien, la Bohème, je me rappelle d'une exposition au Grand Palais, je crois, sur oui. Donc, c'est vrai.
C'était
sur l'art plus ancien, sur l'art baroque, c'est ça. Baroque. Et c'est vrai que je trouve que cette partie de l'art de l'Est de l'Europe est encore assez mal connue. On a eu il n'y a pas très longtemps au Louvre le sculpteur ukrainien dont le nom m'échappe, le sculpteur baroque, mais c'est vrai que c'est encore quelque chose qui n'est pas très connu malgré vos efforts. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Est-ce qu'on peut expliquer ça? Pourquoi est-ce que finalement la France se tourne assez peu vers ces cultures artistiques?
Le problème, pour prendre l'exemple de Budapest, notre exposition était intitulée « Modernité hongroise et peinture européenne », c'était que, évidemment, il y avait eu, je dirais, d'une part, finalement, des frontières qui faisaient que ça n'intéressait pas, et puis, d'autre part, les pays concernés s'intéressaient avant tout à l'art étranger. Alors, leur propre art, en général, il y avait deux musées, hein, un musée consacré à l'art européen et puis un musée qui était consacré à leur art à eux. Et leur vision de leur propre art était avant tout axée sur l'histoire de leur pays. Donc, la vision que nous pouvions avoir en tant qu'étrangers sur leur propre art était nouveau d'une certaine façon. C'est pour ça qu'on avait intitulé donc en 1995 cette exposition Modernité hongroise. Et le but c'était de montrer combien il y avait, je dirais, les artistes hongrois, ou pour les artistes tchèques c'était la même chose, ils étaient en phase. Et parfois ils étaient plus modernes que d'autres Européens. C'était quelque chose qui, je trouve, était très, très stimulant, et les conservateurs des pays concernés se sont donnés à fond, effectivement, pour nous prêter un maximum d'œuvres importantes, de façon à ce que les Français se rendent compte à la fois de l'originalité, je veux dire, on me souvient, pour Budapest, on avait les plus beaux Ripple Renai dont on puisse rêver. Il y avait un moment comme ça extraordinaire où ils étaient reconnaissants que l'on vienne vers eux et qu'on cherche à faire découvrir leur art en France.
Alors on verra plus tard, quand on parlera de Compiègne, que vous n'avez pas complètement cessé ces rapports avec ces pays, puisque vous avez des expositions également qui portent sur cela. Mais j'aimerais qu'on dise un mot aussi de votre passage au ministère de la Culture. Parce que finalement, je n'ai pas encore reçu à cette table, je ne crois pas avoir reçu quelqu'un qui ait travaillé au ministère, comment dire, rue de Valois, en fait, au sein des saints, c'est-à-dire au niveau central du ministère de la Culture. Qu'est-ce que ça change par rapport, quelle est la différence entre le fait d'être sur le terrain, donc à Dijon, ensuite à Compiègne, et le fait de travailler au ministère de la Culture?
Je crois que c'est
sans révéler de secret, hein, je ne vous demande pas de...
C'est une vision qui concerne à ce moment-là l'ensemble des musées français et leur évolution. Je veux dire, la direction.
Rappelons que vous étiez adjoint au directeur des musées de France.
Absolument. J'étais adjoint de Francine Mariani Ducret. Ça a été un moment extrêmement riche, dense et tout à fait merveilleux, agréable sur un plan professionnel, parce qu'on a l'impression d'apprendre énormément. Mais en même temps, ce sont des moments où on sent les musées évoluer. Je veux dire, le rapport entre les établissements publics et le ministère était en perpétuelle mutation. Et moi qui suis pour, je dirais, un ministère de la culture fort, le rôle de la direction des musées de France, qui est devenu maintenant un service des musées de France, me semblait absolument stratégique pour qu'il y ait une sorte de toile d'araignée, une irrigation d'une politique nationale au niveau de l'ensemble du territoire. Alors, c'est quelque chose qui passe à travers, effectivement, des subventions, qui passe à travers une action en termes de conseils scientifiques, de surveillance, d'aide à des acquisitions grâce au fonds du patrimoine. Mais c'est vrai que la France est d'une richesse extraordinaire en termes de réseau de musées et que la responsabilité du service des musées de France est grande. À la fois, comme je viens de le dire, en termes de contrôle, mais aussi de conseils. Et ça, c'est... Je veux dire, d'autres pays, si vous prenez l'Allemagne ou l'Italie, enfin, il y a des structures qui ont une importance autre, pour ne pas dire moindre. Alors j'ai tendance à penser qu'en France, c'est un pays merveilleux sur un plan culturel, parce qu'on a d'une part des écoles uniques au monde, je pense notamment à l'école du Louvre, on a des conservateurs qui passe des concours, et une école du patrimoine, l'INP, qui les forme, c'est aussi unique. Et puis on a ce réseau de musées qui est d'une richesse extraordinaire, que ce soit les musées des collectivités territoriales, les musées nationaux, où je pense le rôle de l'État est aussi de veiller à ce qui est non seulement une cohérence en termes de politique, mais à ce qui est des équilibres entre Paris et le reste du territoire, entre les grands musées et les plus petits. Et ça, c'est vraiment, je pense, essentiel à l'avenir des musées français. Après, il y a une responsabilité aussi en termes de déontologie. Déontologie pas seulement au sens moral, mais aussi au sens politique des musées. Ça a été un moment très riche, où il y a eu un certain nombre d'opérations qui se sont montées, et où je crois que mon rôle a aussi été, en termes de gestion, d'essayer d'aider le plus possible et de mettre en valeur ce métier de conservateur qui est donc, je crois, très précieux et qu'il faut préserver au mieux. Parce que je crois que ce soit en termes de recherche scientifique ou en termes de direction d'établissement, la France a beaucoup de chance d'avoir les conservateurs que nous avons.
Alors revenons justement au métier de conservateur, puisque vous êtes directeur du domaine national de Compiègne, Blérancossa, mais vous êtes avant tout conservateur. Pour un château comme Compiègne, donc vous êtes arrivé à Compiègne ? Vous étiez nommé, je devrais regarder sur la tribune de l'art, je pense que j'ai dû le dire.
Je suis arrivé en 2005.
En 2005. Donc ça fait déjà, effectivement, vous avez une expérience importante, puisque c'est 9 ans. Alors Compiègne, c'est un musée château. Alors, on parlera tout à l'heure, on dira un mot d'un colloque qui va avoir lieu dans quelques jours sur, justement, la question des musées châteaux et de la question de l'authenticité dans les musées châteaux. Mais d'abord, un musée château, ça implique quoi, justement? Ça implique que ce n'est pas un musée comme les autres. C'est-à-dire que le musée lui-même est une œuvre d'art, en fait, en
Absolument,
quelque sorte.
Absolument, oui. C'est un lieu qui rassemble, effectivement, une architecture, un parc, un environnement et des décors intérieurs avec tout ce que ça comporte, c'est-à-dire des décors muraux et d'autre part du mobilier, des collections d'art et une histoire. Tout ça, ça fait une sorte de melting pot, n'est-ce pas, où notre rôle est de veiller qu'il n'y ait pas trop de déséquilibre. Autrement dit, ne pas oublier le parc sous prétexte qu'on a des travaux importants de toiture à faire. Alors, dans le cas de Compiègne, bon, c'est une des trois résidences royales et impériales les plus importantes en France, on va dire après Versailles et Fontainebleau, donc il y a une sorte de triumvirat, où je dirais Compiègne a souffert par rapport à Versailles et Fontainebleau, d'une histoire qui est celle du Second Empire. Napoléon III ayant beaucoup aimé Compiègne, ça signifiait la perte de l'Alsace-Lorraine après 70, et donc on a voulu oublier, je pense, cette époque, et donc on a peut-être voulu un peu oublier Compiègne. Alors Compiègne a été sauvé comme au moment de la Révolution, on a sauvé Versailles, n'est-ce pas ? C'est-à-dire qu'on y a mis des tableaux saisis sur les biens des émigrés, sur l'église. Mais Compiègne, après 70, a été sauvé parce que, sans que ce soit officiellement un musée, l'administration des musées y a mis des collections pour en faire un musée. Alors il y a eu des sortes de tentatives, n'est-ce pas, qui ont été éphémères, comme un musée Khmer, donc avant même qu'on crée le musée Guillemin.
Et donc les collections sont parties au musée Guillemin, je ne sais plus.
Après, c'est ça. Voilà. Mais donc, dans ce qu'on appelle la salle des colonnes, il y a eu les sculptures d'Ankorvat qui ont été présentées, et il y a eu un éphémère tentative de faire un musée de la tapisserie. Enfin, il y a eu différentes façons d'occuper le terrain, on va dire. La notion de château-musée, à l'époque, était tout à fait secondaire. Alors, effectivement, il n'y a pas eu de mécénat non plus américain très important entre les deux guerres, comme il y en a eu à Versailles. Et il y a eu des travaux importants après la Seconde Guerre mondiale qui, là, ont tenu compte du fait qu'il s'agissait effectivement d'un château-musée et qui ont pris en compte une certaine déontologie qui visait à restaurer les espaces en fonction de, je dirais, différents paramètres. C'était Pierre Verlet qui avait énoncé ça, la prise en compte du décor de la pièce, la prise en compte des archives, la prise en compte du mobilier qui restait, et on devait trouver une unité de façon à ce que soit représenté dans cette pièce un moment précis. En dehors de ça, point de salut, si on peut dire. Donc c'est ce qui a été fait, mais ce qui m'a frappé, puisque j'avais une formation, on va dire, de directeur de musée de Beaux-Arts, ce qui m'a frappé lorsque je suis arrivé à Compiègne, c'est que cette politique avait signifié des destructions. Destruction, par exemple, de décors Second Empire. Et c'est quelque chose qui a toujours été une de mes préoccupations, c'est d'amener les uns et les autres à faire attention, à être le plus respectueux possible des différentes strates historiques. Je prends un exemple. Quand j'ai lancé la rénovation...
Je bois du petit lait, hein, je vous le signale.
Quand j'ai lancé la rénovation du musée des Beaux-Arts de Dijon, j'ai proposé... à travers un projet scientifique et culturel qui a été ensuite suivi par Sophie Jugy, qui a pris la suite, j'ai proposé qu'il y ait une présentation des collections qui soit basée sur la chronologie, un mélange des différentes techniques, et, si possible, un mélange aussi des productions de différents pays quand on a la possibilité de le faire. Autrement dit, pour la Bourgogne, le XVe siècle est extrêmement important. Bon, très bien, on a une production de sculpture, de peinture. Si on a des objets d'art, bien c'est merveilleux. Et puis, on propose au public aussi de confronter cela avec la production XVe siècle en Flandre, XVe siècle en Allemagne, etc. Donc ça permet, je dirais, sans dénaturer la production nationale, on va dire, ça permet de mieux comprendre ce qui se passe à un moment donné en Europe et de mieux comprendre aussi l'art de notre propre pays ou de notre propre région. Et le fait de mélanger aussi, par exemple, art décoratif, peinture, sculpture, je pense que... Alors, c'est la notion de Gesamtkunstwerk en Allemagne, hein, mais je pense que c'est très stimulant pour l'esprit. Donc, c'est ce qui a été fait. Au même moment, le Rijksmuseum avait décidé de faire la même chose. Et, si vous voulez, c'est quelque chose qui, je pense, permet aux visiteurs... mais aux historiens aussi, de mieux situer l'art sans avoir de hiérarchie académique qui amène à dévaluer certains arts au profit d'autres. Ça, si on fait une sorte de projection de ce respect que l'on peut porter à toutes les productions artistiques dans le domaine des châteaux-musées, eh bien, ça amène à se dire il faut inviter le public à mieux comprendre ce qui se passe à un moment donné dans une grande demeure, et je dirais à la façon de Downton Abbey, c'est-à-dire depuis l'activité du souverain jusqu'à l'activité du domestique. Et d'autre part, amener le visiteur aussi à comprendre que eh bien, s'il y a un souverain, il y en a eu d'autres, et qu'ils ont vécu dans les mêmes pièces, et que l'un n'a pas forcément cassé tout ce que son prédécesseur avait fait. Autrement dit, prenez Napoléon III. Bon, Napoléon III, l'une de ses résidences privilégiées, préférées, on va dire, c'était Compiègne. Il venait à Compiègne, il y organisait les séries, etc. Quand il arrive, il ne vide pas la résidence. Il s'installe dans le mobilier qui était là. Et donc, coexistence d'un mobilier Premier Empire et d'un mobilier Second Empire. Et le mobilier Second Empire se fait de plus en plus présent, mais ce n'est pas du jour au lendemain. Et quand l'impératrice, de surcroît, avec son goût, Marie-Antoinette, introduit un mobilier Louis XVI qu'elle capitonne, eh bien, on est encore dans un mélange de styles. Eh bien, ça, c'est ce qui fait comprendre aussi une époque donnée. Donc, ce respect qu'on, je crois, on doit essayer d'avoir et qu'on doit essayer de faire passer auprès du public, eh bien, ça se traduit sur un plan muséologique.
Alors, je pense que ce seront des débats donc intéressants lors de ce colloque qui aura lieu, rappelez-moi les dates. Donc, mais c'est complet, hein, je crois.
Oui, on a eu un succès trop important, mais, si on peut dire.
Je participerai à ce colloque et je ferai un article parce que c'est un sujet, effectivement, qui nous intéresse beaucoup. Donc ça aura lieu. Alors, quand même
C'est un colloque qui a lieu du 7 au 11 octobre, qui se déroule en grande partie à Compiègne pour tous les échanges. Après, nous ferons des visites de Fontainebleau, ça se terminera à Versailles. Il y a, je crois, 27 pays représentés. Et ce succès, eh bien, je crois, nous le devons au thème que nous avons choisi, l'authenticité dans la conservation des demeures historiques et des châteaux-musées. Et je crois que dans le monde où nous vivons, où le virtuel est très important, c'est l'occasion d'affirmer que cette quête que certains d'entre nous ont de plus d'authenticité, eh bien, n'est pas incompatible avec notre monde et que le virtuel ou les nouveaux médias, eh bien, peuvent apporter beaucoup sans pour autant que cette quête de l'authenticité soit reléguée au placard.
Alors, nous en reparlerons, nous continuerons sur Compiègne après les brèves, et nous parlions de nouveaux médias, enfin de numérique, etc. Je rappelle que sur Twitter, il y a des auditeurs qui tweetent en même temps et qui peuvent éventuellement poser des questions. Les nouvelles très très brèves. Le patrimoine, ce n'est pas uniquement les grands monuments comme Compiègne ou les chefs-d'œuvre de l'histoire de l'art. Il y a aussi un petit patrimoine qui nous entoure, ou des bâtiments qui ont du charme et dont la disparition cause inéluctablement un appauvrissement de notre environnement. C'est le cas, par exemple, pour ce que nous en donnent à voir les photos de la halle du 19e siècle de la commune de Briennon, dans l'Yonne. À vrai dire, nous étions au courant de cette affaire depuis environ un an. C'est-à-dire, l'affaire, c'est que le maire, bien entendu, veut détruire cette halle, qui n'est pas un chef-d'œuvre de l'architecture, mais qui est tout à fait joli. On peut voir d'ailleurs la photo sur que nous avons mis en ligne sur la page de l'émission.
C'est pas Fontainebleau, quoi.
Non, c'est pas Fontainebleau. Fontainebleau, c'était pire, parce que là, c'était vraiment un chef-d'œuvre de l'architecture des années 40. Mais là, c'est une jolie architecture des années 1840, je crois. Et en plus, un monument qui est à peu près en bon état et qui va être détruit. Nous avions à l'époque interrogé le maire, qui nous a pas répondu, évidemment. Et puis, faute de temps, parce qu'on n'est pas suffisamment nombreux, comme je le disais, on n'avait pas pu parler de cette affaire. Malheureusement, ça devient de plus en plus pressant. Voilà, un nouvel exemple de vandalisme municipal à venir. Au moment où se terminent les journées du patrimoine, c'est toujours intéressant d'en parler. Sujet qui revient souvent, et d'ailleurs on pourrait peut-être en parler, parce que je ne l'avais jamais fait, je crois encore, les appels à souscription publique. On n'avait jamais fait de souscription.
Moi j'en ai fait, mais
pas
avec vous.
Non, mais à Compiègne, je veux dire. Oui. Ah, vous avez fait des souscriptions, oui. Je ne me rappelle pas.
Si, pour la restauration du lit de l'impératrice.
Ah, très bien, effectivement. Je crois que nous n'en avions pas parlé, d'ailleurs, ce qui est un tort. Bon, enfin, donc, effectivement, Compiègne également, mais beaucoup de musées, beaucoup d'endroits, des souscriptions publiques se multiplient, en général avec succès. Certaines, et beaucoup même, sont légitimes et doivent être soutenues. D'autres sont plus discutables, car on a tendance de plus en plus à financer de la sorte des opérations qui devraient l'être de base pour les pouvoirs publics. C'est ainsi que la mairie de Paris s'apprête à lancer une souscription pour restaurer les peintures murales de Delacroix à l'église Saint-Sulpice. Nous en parlerons dans un article à paraître demain. Une autre initiative vient d'être lancée par la Fédération Patrimoine et Environnement qui porte sur la gare de Tours. La SNCF a depuis plusieurs années restauré cette gare, due, rappelons-le, à Victor Laloux, architecte de la gare d'Orsay, aujourd'hui musée d'Orsay. Mais les 18 panneaux de céramique qui sont de Eugène Martial Simas sont encore aujourd'hui en mauvais état et doivent être restaurés. Donc une souscription est lancée sur le site Ululé, je ne sais pas comment on le dit, pour un premier panneau et un montant assez raisonnable de 8000 euros, dont 20% ont déjà été réunis. Je verrai à partir de la page d'émission sur cette page de souscription. Une nouvelle là qui s'adresse une fois de plus aux utilisateurs de Twitter, qui amusera certains, ça n'intéressera pas beaucoup de monde parce que tout le monde ne va pas sur Twitter, mais une triste disparition, celle du compte parodique La Tribune du Lard, parce que figurez-vous que La Tribune de Lard était parodiée par La Tribune du Lard. Un Twitter anonyme qui, pendant un peu plus d'un an, nous a régalé de ses tweets assez drôles, je dois dire. Être parodié, c'est la consécration. Et là, ce compte anonyme vient de se saborder. Plus aucun tweet a été publié depuis la fin de la matinée, donc c'est vraiment l'actualité brûlante. Espérons qu'il reviendra un jour sur son... Vous savez, il a fait son départ en pleine gloire. Il y avait de plus en plus de followers, de plus en plus de gens le suivaient sur Twitter. En tout cas, n'hésitez pas, sur Twitter toujours, à poser une question à Emmanuel Starkey, et si la tribune du Lard nous écoute, il peut toujours envoyer un dernier tweet. Je retourne donc à nouveau pour parler de Compiègne, et donc ce colloque qui ne manquera pas d'être absolument passionnant. On a vu ce que c'était que le château, donc il y a beaucoup de restaurations, vous êtes obligé de faire beaucoup de restaurations du château lui-même. Quels sont les chantiers récents et les chantiers à venir qui sont les plus marquants?
Alors, bon... Il y a, en ce moment même, on restaure l'appartement des invités, parce que, justement, il y avait eu une première étape avec les meubles que nous avions retrouvés, enfin, que mes prédécesseurs avaient retrouvés, avaient mis in situ dans deux appartements. En termes d'authenticité, on n'était pas encore arrivé au but. Le papier peint datait du XXe siècle et il n'y avait pas de rideaux, etc. Donc on a rénové ces deux appartements, on va les ouvrir en octobre.
Les décors sont donc Napoléon III ?
Alors c'est totalement Napoléon III. On a eu la chance de retrouver le papier peint d'origine. Alors quand il était restaurable, nous l'avons restauré. Et dans les pièces principales, il n'existait plus, mais on a retrouvé le modèle d'origine. Donc on l'a fait réimprimer à l'identique. Et on a retrouvé beaucoup de choses. Par exemple, il y avait une moquette sur le plancher. On a retrouvé un tableau. Enfin, il y a vraiment la volonté, je dirais, non seulement de retrouver ce qui se trouvait là, mais de retrouver les décors tels qu'ils étaient, les harmonies de couleurs telles qu'elles étaient, et si possible aussi l'éclairage tel qu'il était. Ça, c'est un chantier qui se termine. Il y a la restauration de Salon des Dames d'Honneur, Premier Empire, qui est en cours grâce à la Société des Amis Américains, qui a été créée récemment et qui vient prochainement à Compiègne. Et puis, comme vous le savez, donc on a achevé la restauration du lit de l'impératrice. Alors ça, c'est pour le musée du Second Empire. Vous savez que Compiègne abrite d'une certaine façon trois ensembles de musées nationaux. D'une part, la résidence, d'autre part, les deux musées du Second Empire, et enfin, le musée de la voiture.
On parlera du musée de la voiture tout à l'heure, effectivement.
Mais donc, on mène une politique de restauration qui concerne ces trois entités-là, et on parlera, j'espère aussi, de Blérancourt. En ce qui concerne le musée du Second Empire, nous menons donc politique de restauration et aussi politique d'acquisition, qui est assez brillant. On a en ce moment même une exposition Carrier-Belleuse qui est,
dont on a parlé, une très belle
absolument,
exposition.
Absolument, vous avez fait une très bonne critique, mais pour avant même que l'exposition ne s'ouvre, on avait acheté plusieurs
œuvres. On l'avait dit, je l'ai dit à cette occasion, effectivement.
Et on vient d'en racheter une qui n'est pas encore dans l'exposition.
Ah, une nouvelle encore.
Oui, une nouvelle encore. On a acheté une esquisse du plafond du Grand Théâtre de Compiègne par Delaunay. Enfin, on achète vraiment très régulièrement, un des très beaux achats ces dernières années, c'est un tableau de Fromentin qui représentait un berger kabyle. Et simplement, il y a une. Effectivement, on est forcé de mener des acquisitions pour les différents musées. Et donc, on a un fort soutien de l'État. Après, on ne peut pas toujours acheter, évidemment, tout ce qu'on souhaiterait acheter. Pour le musée de la voiture, les acquisitions sont plus rares.
À propos du musée du Second Empire, un lecteur m'a demandé de vous poser une question. Il y a dans ce musée le tableau de Winterhalter, l'impératrice et ses dames de compagnie. Et c'est vrai que c'était presque la Joconde de Compiègne. C'est vrai, c'est une icône. Or, le musée n'est pas toujours ouvert. Un visiteur peut très bien venir à Compiègne et pas savoir que ce tableau est là et ne pas le voir. Est-ce que ça pose...
On a malheureusement hérité d'une situation où nous avons pas suffisamment de personnel pour ouvrir tous les espaces en visite libre. Mais tous les espaces sont ouverts. Donc, autrement dit, les grands appartements sont en visite libre, le musée de la voiture est en visite commentée et le musée du Second Empire en visite commentée. Donc, il faut simplement s'inscrire.
Peut-être le faire savoir plus, parce que absolument. En fait, les gens ne savent pas forcément que l'œuvre est là.
Absolument. Donc, on a le projet, et je pense qu'on va pouvoir le réaliser l'année prochaine, d'avoir un espace d'accueil. Nous avons déjà sorti les bustes des principaux personnages qui ont marqué l'histoire de Compiègne, et dans cet espace d'accueil, nous aurons des panneaux multimédia qui permettront effectivement de savoir que telle et telle œuvre se trouve à Compiègne et qu'il suffit de s'inscrire pour pouvoir le voir.
Alors, nous avons parlé de Carrier-Belleuse, donc de la dernière exposition en date, puisqu'elle n'est pas terminée encore.
Non, jusqu'au 27 octobre.
Jusqu'au 27 octobre, que je vous encourage tous à aller voir. L'exposition Carpeau qui était au musée d'Orsay est terminée, mais Carrier-Belleuse continue.
Absolument. C'est une vraie découverte du Second Empire, de la sculpture sous le Second Empire, et des rapports aussi entre un grand sculpteur et l'un de ses élèves, Rodin.
Et je trouve qu'effectivement, ce type d'exposition a vraiment... Et c'est ça que j'apprécie dans les expositions de Compiègne, c'est que vous faites rarement... Alors là, vous avez mis Rodin, parce qu'effectivement, c'est un petit peu plus vendeur, mais c'est un vrai sens, parce que Carrier-Belleuse est le maître de Rodin. Les comparaisons Rodin-Carrier-Belleuse fonctionnent très bien. Mais vous ne faites jamais les expositions, les impressionnistes en goguette, etc. Vous pourriez finalement, parce que vous êtes sous le Second Empire, il y avait aussi les impressionnistes.
Non.
Vous ne faites pas d'exposition un petit peu racoleuse, c'est ce que je veux dire.
Enfin, en tout cas, on a essayé de mettre sur pied une politique d'exposition temporaire qui vise à faire découvrir des pans de l'histoire de Compiègne, comme Louis XVI et Marie-Antoinette à Compiègne, donc en 2006. Parfois, des pans de l'histoire de l'art qui sont en rapport chronologique avec Compiègne, mais qui permettent de donner une ouverture sur l'étranger, et qui sont là aussi des découvertes, qui n'ont jamais été faites auparavant. Je pense par exemple à l'exposition Nicolas II Esterházy en 2007, donc c'était un collectionneur hongrois qui est d'une certaine façon le fondateur du musée des Beaux-Arts de Budapest. Et puis ensuite, nous avons eu plus récemment donc l'Aigle Blanc, Stanislas Auguste, qui lui aussi était contemporain.
Toutes expositions dont on a parlé sur la tribune. Tribune de l'Art. Donc voilà.
Et qui témoignent d'une forme d'intérêt pour le néoclassicisme et pour l'art français, mais qui en même temps sont des personnages considérables pour leur pays. Et puis nous avons, par rapport au Second Empire, toujours cette volonté de montrer la grandeur du Second Empire, son ouverture d'esprit et son rayonnement. Et on a fait notamment, donc en 2008, deux expositions successives qui étaient, je pense, révélatrice de notre politique, Napoléon III et la reine Victoria, une visite à l'exposition universelle de 1855.
Une recension sur la Tribune de l'Art.
Formidable. Et juste après, c'était une demande roumaine, le rôle de Napoléon III dans la création de la Roumanie, c'était Napoléon III et les principautés roumaines.
Position qu'on n'a pas vue et qu'on n'a pas commentée. C'est l'erreur.
Personne n'est parfait.
Voilà.
mais voilà, c'est dire un peu que nous essayons de balayer, mais dans un spectre très déterminé. Alors, on a des expositions aussi de plus petits formats que nous faisons régulièrement et qui sont destinées plus particulièrement à explorer des domaines comme, par exemple, la vie quotidienne dans une grande demeure. Alors, on a fait la table de l'impératrice Eugénie ou un artiste qui... On a fait le salon de thé pour l'impératrice Eugénie aussi. Ou un artiste qui est... moins connu que Carrie Belleuse, par exemple, si on en prépare une exposition sur Marcello. On veut aussi permettre au public de découvrir des domaines qui sont peu connus. On a fait l'année dernière, vous savez, une exposition qui a eu un grand succès, c'était Folie textile, le textile sous le Second Empire.
On t'a parlé également.
Qui a eu un grand succès auprès des femmes, notamment. Mais beaucoup de gens de la mode aussi sont venus, parce qu'il y a un rapport évident entre les créations du Second Empire et les créations contemporaines.
Et les expositions à venir, qu'est-ce que vous nous préparez dans les... à part Marcello, donc la Comtesse Colonna, c'est ça?
Voilà, absolument.
Sculpteur femme, ce qui n'est pas assez fréquent au XIXe siècle.
Et qui est venu à Compiègne, qui faisait partie de la cour, et qui est l'auteur d'une autre œuvre qui se trouve à l'opéra, Carrie Belleuse et les Torchères, et la Duchesse Colonna, Marcello.
Duchesse Colonna, j'ai dit Comtesse. Duchesse
Colonna. C'est la Pitié qui se trouve à l'Opéra de Paris. On prépare pour l'année prochaine une exposition qui défrisera peut-être certains. J'ai envie de commencer par son sous-titre. C'est l'Empire tel que vous ne l'avez jamais vu. Autrement dit, c'est le Premier Empire, 2015-1815. Et on ne veut pas évoquer une défaite, on veut évoquer le rayonnement de l'art du Premier Empire à travers trois prismes. D'une part, dans quelle mesure le Premier Empire est héritier du XVIIIe, dans quelle mesure le Premier Empire invente de nouvelles formes, de nouveaux rapports de couleurs, dans quelle mesure le Premier Empire est précurseur de tout le XIXe siècle. Après, c'est quelque chose qui vraiment concerne tous les domaines, hein, depuis les papiers peints jusqu'à la peinture, hein, bien sûr. Alors, il y a des choses qui sont connues, hein, la peinture troubadour, elle date du XVIIIe siècle et elle se prolonge jusqu'en 1855, mais elle est très présente sous le Premier Empire, et ainsi de suite. Il y a des papiers peints qui sont d'une originalité folle, il y a des textiles qui sont... Bon, je veux dire, voilà, vous avez Géricault qui coexiste avec Ingres et avec David. Donc l'idée, c'est de suggérer, de susciter l'étonnement de la part de nos visiteurs. Le Premier Empire n'est pas seulement un art au service de l'empereur, ça n'est pas forcément ce que vous croyez.
Très bien, écoutez, on attend de voir ça avec impatience. La revue de presse. Une enquête qui se trouve dans Libération sur la pub de Sonia Faure, avant de l'ancienne maison d'arrêt, qui passe en revue les questions assez prégnantes en ce moment. Du devenir des prisons en France. Elle cite par exemple l'exemple de la prison d'Autun, qui va devenir fort heureusement... Le musée d'Autun va s'agrandir et la prison, qui est une très belle prison ronde, va être restaurée et va permettre d'agrandir le musée. On parle des prisons de Lyon, donc nous avions, sur lesquelles nous avions écrit des articles il y a quelques années, qui ont été sauvées. Alors, je n'ai pas regardé ce dossier depuis un certain temps. J'espère qu'elles ont été sauvées entièrement. Il est possible qu'elles soient un peu, mais en tout cas, elles ne seront pas détruites. Mais il y a des prisons à droite à gauche qui souvent sont des monuments historiques et qui risquent d'être détruits. Donc c'est un article, une enquête assez intéressante à lire dans Libération. Je mettrai le lien, bien entendu, et qui accompagne en fait une prise d'opposition. Les prisons font aussi partie de notre patrimoine, qu'un certain nombre de personnalités ont signé dans Libération également. Autre article, la gare Lich sera-t-elle sauvée de la ruine? Alors ça fait partie là encore de ce patrimoine menacé, qui sont du patrimoine qui dépend de la SNCF ou du réseau ferré de France, souvent du patrimoine métallique, donc souvent du patrimoine qui date soit éventuellement du Second Empire, soit de la Troisième République. Et là, c'est une gare due à Juste Lich, qui était la gare du Champ de Mars pour les expositions universelles de 78 et de 89, donc ce n'est pas rien. Elle a été déplacée à Asnières en 1897 et elle est aujourd'hui propriété du réseau ferré de France. Et comme bien des monuments liés au rail, donc elle est menacée. Nous mettrons en lien vers la page Facebook de ceux qui se battent pour la sauver. Et enfin, c'est plus anecdotique, mais c'est quand même la preuve le patrimoine, ce n'est pas uniquement les monuments, mais c'est aussi à Lokirec, donc un particulier s'est autorisé à casser des rochers qui étaient classés monuments, qui étaient classés au site inscrit, c'est le site protégé pour voir la mer. Donc la question, elle pourrait paraître anecdotique, n'empêche que la question, c'est qu'est-ce qui va se passer pour cette personne? Est-ce qu'il va être condamné lourdement? On l'espère, c'est-à-dire dans Ouest France. Je parlais donc à l'instant du patrimoine menacé, du patrimoine en péril. Il y a à Compiègne, alors c'est moi qui le dis, je ne serais peut-être pas forcément d'accord avec cela, mais il y a à Compiègne, malgré tout, un patrimoine menacé, c'est le musée de la voiture. Alors, en deux mots, je vais dire ce que j'ai vu, vous nous raconterez cette histoire-là, mais c'est vrai que le musée de la voiture, il y a des choses exceptionnelles, je l'ai visité plusieurs fois, il y a des voitures d'une beauté ahurissante, il y a même des qui ont le trait avec la peinture, parce qu'il y a des carrosses peintes, mais il y a également, même du point de vue... technologique, des choses exceptionnelles. J'ai filmé un film que je n'arrive pas à... ça va être mon chef-d'œuvre inachevé. C'est-à-dire que je n'arrive pas à faire ce film parce que j'ai filmé deux fois déjà ce musée qui mériterait vraiment d'être mieux connu. Et je sais que vous faites tout pour essayer de le sauver parce que c'est dans un état qui n'est, disons, pas très très bon. Et vous avez beaucoup de projets, un projet surtout qui est merveilleux, qui est de transférer ce musée de la voiture dans les haras de Compiègne. Où en est ce dossier dont on parle régulièrement avec vous et dont l'ancienne ministre de la Culture avait dit que finalement ça allait se faire? Alors est-ce que vous avez rencontré le nouvel ministre? Est-ce que ça va se faire?
Alors bon, d'abord un mot sur ce musée. Effectivement, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Il y a deux grands musées de la voiture en France, je dirais la collection Schlumpf transformée qui est présentée à Mulhouse, et puis le musée de la voiture et du tourisme, et surtout de la voiture à Compiègne, qui est le seul musée national. C'est quelque chose d'assez fascinant parce que, en fait, les carrossiers français, ceux qui s'intéressaient aux premières automobiles, ont eu conscience dans les années 1900 qu'un monde changeait, basculait, et que tout ce qui était hippomobile allait disparaître. Donc ils ont constitué des collections, l'Automobile Club de France est intervenu, et on a gardé, donc on a... C'est une initiative à l'origine privée. On a gardé des carrosses, omnibus, et on a gardé les premières voitures à vapeur, les premières voitures électriques et les premières voitures à explosion. Donc nos collections, en gros, s'échelonnent depuis le XVIIIe siècle. On a une carrosse de Royal Espagnol et jusqu'aux années 1920. Mais on a aussi une collection extraordinaire de premier cycle, on a une collection de chaises à porteurs,
c'est fabuleux, hein, je veux dire, c'est fabuleux.
D'une richesse absolument incroyable. Or, évidemment, l'administration française, dans sa sagesse, s'est dit, bon, à partir du moment où c'est une collection qui devient nationale, il faut trouver un point de chute. Compiègne abritait à ce moment-là, dans les années 27, l'administration des régions libérées. On souhaitait qu'elle parte. C'était idéal à la place d'installer le musée de la voiture. C'est ce qui s'est fait, mais simplement installer des voitures dans ce qui était autrefois l'aile de la bouche, c'est-à-dire les cuisines, c'est pas quelque chose qui va de soi en termes d'adéquation entre un bâtiment et ses collections. Donc on a éprouvé le besoin de couvrir une cour. C'est très bien, mais maintenant la cour est tellement remplie de voitures, la verrière posait de tels problèmes de fuite que tout ça n'était plus vraiment visitable. Alors le musée de la voiture est visitable, je le répète, mais pas certains espaces.
Le plus bel espace, c'est quand même celui-ci, cette cour avec. On peut pas le voir normalement.
Absolument. Donc on est dans une situation de collection qui doivent impérativement être mises en valeur et qui sont d'une importance internationale et j'ose dire mondiale. C'est vraiment l'aventure de l'automobile qui, nulle part au monde, on a eu des carrossiers comme en France. Il y a des voitures d'une beauté extraordinaire. C'est un mélange de l'histoire des technologies avec l'histoire de l'art. Et il fallait faire quelque chose. Donc, il y avait la première des dépendances du palais qui, après 70, donc, s'était transformé en haras nationaux. Nous sommes entrés en contact avec les haras nationaux et nous leur avons proposé, donc, en partenariat avec eux, de façon à ce qu'il y ait une animation qui fasse vivre aussi, qui fasse comprendre ce que sont les véhicules hippomobiles. Mais évidemment, on fera la même chose avec les véhicules automobiles, n'est-ce pas ? Faire découvrir ce qu'est un moteur à vapeur, un moteur à explosion ou un moteur électrique. Aujourd'hui, c'est un enjeu pour l'avenir. Et ces bâtiments, les haras nationaux, sont abrités dans ce qu'étaient les grandes écuries réalisées pour Louis XV. En fait, Louis XV s'était pris de passion pour Compiègne. Comme tout le monde le sait, le bâtiment de Compiègne, qui est un bâtiment néoclassique, le palais de Compiègne, c'est une création de Louis XV. Avant même de lancer les travaux pour son palais, il fait faire de grandes écuries. Et ces grandes écuries sont situées à 350 mètres du palais, et les haras nationaux sont dans une situation où le destin même de ces bâtiments est en jeu. Donc, tout est parfait, si l'on peut dire. Il faut simplement aujourd'hui trouver des mécènes, puisque la ville, le département, l'État souhaitent que ce projet se réalise. Il ne se réalisera que si nous arrivons à rassembler quelques mécènes autour. Nous en avons déjà quelques-uns qui, semble-t-il, pourront concrétiser. Il en faudrait d'autres.
Il faut aussi quand même que la région, l'État, mette un peu au beau.
Oui, mais ça, c'est prévu.
D'accord. Bon, bah écoutez, on espère que ça va se passer.
Donc, bientôt, vous pourrez nous aider à trouver des mécènes pour
espérons.
Ce projet.
Donc, il y a une échéance prochaine.
Demain matin, vous me faites un chèque, on part.
Je crains que ça ne dure encore quelques temps, malheureusement. Donc, non, mais vous pensez quand même, vous avez bon espoir d'y arriver ou
Oui, bien sûr. Je pense que la ministre actuelle souhaite lancer le projet. Il faut voir, enfin, je veux dire, il y a une passation de dossier.
Bien sûr.
Il faut voir quel temps, quelle échéance.
Le même conseiller musée patrimoine qui restait. Donc, peut-être qu'il aura à cœur de poursuivre ce projet.
J'en suis certain.
Livre. Je suis allé en fait hier à Bruxelles où j'ai pu voir deux expositions, donc deux catalogues qui donneront lieu à des articles. Alors, je n'aime pas beaucoup le terme sensation et sensualité. Rubens et son héritage. En fait, c'est une exposition sur l'influence de Rubens sur la peinture et les peintres plus tardifs. Je pense que c'est plus un sujet d'ouvrage, un sujet de livre qu'un sujet d'exposition. Donc à voir, est-ce que le catalogue tient ses promesses? Il est de Nico van Oost, donc qui est un spécialiste de l'artiste de Rubens. Espérons que le catalogue, qui a l'air plutôt bien, tienne ses promesses. L'exposition m'a un petit peu déçu, j'expliquerai pourquoi, même s'il y a de très 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 belles œuvres. Autre exposition, une belle exposition, c'est celle de Constantin Meunier, donc 1831-1905, donc qui est autant un peintre qu'un sculpteur, ce que j'ai découvert finalement à l'occasion de cette exposition. Je m'attendais à voir beaucoup de sculptures, avec beaucoup de peintures, parfois inégales, mais en tout cas avec des choses très 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 intéressantes, et le catalogue est plutôt plutôt pas mal fait, me semble-t-il. Mais encore une fois, ce sont les ouvrages que nous allons recevoir, donc je ne l'ai pas encore lu. Et comme je le disais, le catalogue d'exposition Décors religieux, beauté du ciel de Maurice Denis au Vésinet, 1898-1903. Pour conclure donc, alors je disais tout en commençant que je ne disais que du bien de votre action. On a eu un petit moment de friction il y a quelques années, c'était à propos de Blérancourt, où il y avait des travaux qui avaient mis au jour un ouvrage de Salomon de Brosse. Nous avions eu un désaccord entre Albin Sarkier et moi-même, et il y avait Alexandre Gadi également, parce qu'il y avait mis au jour, ça avait compliqué, ça avait rendu plus compliqué les travaux que vous meniez à Blérancourt. Mais je crois que c'est absolument à arranger maintenant.
Absolument, oui, oui. Bon, en fait, Blérancourt, il faut pour les auditeurs que vous sachiez que c'est un des très rares musées en France qui vise à mettre en valeur l'amitié entre deux pays, la France et les États-Unis. Alors, ce musée est né d'une intervention américaine lors de la guerre de 14-18, avant même l'intervention des Américains en 1917. C'est la fille d'un grand banquier, mécène, philanthrope, grand collectionneur américain, Pierpont Morgan, donc Anne, qui vient en aide avec un certain nombre d'amis, de collaboratrices, aux soldats qui sont sur le front, et ensuite à la population. Donc elle s'installe à Blérancourt et ensuite souhaite, je dirais, entre les deux guerres, que une collection soit offerte, alors d'abord à la ville de Blérancourt, et la ville, dans sa sagesse, préfère que ça vienne à l'État, une collection qui, on va dire, célèbre dans un premier temps les raisons de l'intervention américaine, c'est-à-dire cette amitié entre deux pays qui est basée sur l'intervention française dans la guerre d'indépendance américaine. Autrement dit, Lafayette nous voilà, hein, qui était le slogan des Américains qui s'engageaient dans la guerre, était la base de ce musée. Remercier la France de son intervention et du fait que Louis XVI, Rochambeau, Lafayette ont permis la création de cet État américain à son origine. Alors bien sûr, créer un musée sur un sujet aussi vaste, ça ne s'invente pas du jour au lendemain, même si on est la fille de Pierpont Morgan. Il y a eu d'une certaine façon deux phases. Une phase où étaient rassemblés surtout des objets, on va dire, historiques. Et puis une deuxième phase, lorsque, il faut le dire, ça c'est l'action des conservateurs qui soudain fait basculer les choses, lorsque Pierre Rosenberg, qui tout en étant au Louvre, au département des peintures, a eu la charge du musée de Blérancourt, il a proposé, il a initié que l'on ajoute à cet aspect historique un autre versant, l'aspect artistique. Des échanges toujours entre la France et les États-Unis. Donc on peut vraiment dire que c'est un petit musée d'art et d'histoire qui vit en grande partie grâce bien sûr à l'État français qui en est le propriétaire, mais aussi grâce à deux associations auxquelles il faut rendre hommage. L'association des amis américains, mais aussi, surtout l'association des amis français de Blérancourt. Et chacun apporte une contribution décisive, lançant un programme d'extension, lançant la rénovation des deux pavillons, où se trouve aujourd'hui la bibliothèque et l'appartement d'Anne Morgan, et l'extension de Blérancourt, donc, qui est financée en partie par les amis américains, vise en fait à rejoindre deux corps de bâtiments qui étaient séparés, le bâtiment de Salomon de Brosse s'élevant sur des marais, et lorsqu'on a fait les travaux pour jeter les fondations de ce bâtiment nouveau, eh bien, on est tombé sur un pont qui était ou qui n'était pas de Salomon de Brosse, mais qui était un vestige de l'ancien château, car il faut dire que Salomon de Brosse a construit sur un château antérieur. Alors on savait qu'il y avait probablement un château féodal, on avait fait des sondages, et les sondages avaient eu lieu au mauvais endroit, on n'avait rien trouvé, donc au moment où les travaux ont débuté, on est tombé sur ce pont. Là-dessus, tout s'arrange, je crois, puisque nous conservons le pont, et il va servir d'entrée, au nouveau musée.
Alors, tout s'arrange, et ça, je ne donnerai pas de réponse à ce que je vais dire, tout s'arrange, oui, pour le pont. Hélas, vous avez choisi un architecte qui est le même que celui de Dijon, que personnellement, je n'aurais pas choisi. Mais bon,
C'était l'architecte qui avait fait l'extension antérieure.
Qui a eu une équerre d'argent, et je ne comprends pas bien pourquoi. Cet architecte s'appelle Yves Lion, et je veux dire que c'est le dernier choix que je ferais personnellement.
Je vous laisse.
Exactement, je suis responsable, tout à fait.
De vos propos, je n'y souscris pas.
Vous savez que nous ne serions pas d'accord sur ce plan-là.
Pas moi qui l'ai choisi à Dijon, puisque le projet a été lancé après mon départ, nous avons fait un montage qui me semble très prometteur pour l'avenir de ce qui est en cours d'être construit à Blérancourt. Nous avons d'une part Yves Lion pour l'architecture et d'autre part Adrien Garder pour la muséographie. Et ça, c'est quelque chose qui marche très bien. Le projet est, grâce notamment aux suggestions d'Adrien Garder, très très simple, hein, en trois grands domaines, si on peut dire. Le visiteur aura le choix soit de faire les trois espaces ou d'en faire un des trois, et dans le sens qu'il voudra. Il y a un premier espace qui sera consacré aux idéaux, donc la notion de liberté, la libération des États-Unis, enfin la création de l'État américain, les Amérindiens aussi qu'on évoquera, la fin de l'esclavage, etc. Ensuite, les conflits. Voilà, on commence bien sûr par la guerre d'indépendance, mais après il y a deux guerres mondiales, et à chaque fois les troupes américaines qui viennent aider l'Europe, et ensuite, les arts, est toujours basé sur les échanges, c'est-à-dire cette notion de l'artiste américain venant en France ou s'inspirant de l'art français, et inversement. Alors l'inversement est à développer, n'est-ce pas, parce que c'est...
On n'aura pas le temps malheureusement de le faire cette fois-ci.
Mais c'est quelque chose d'important, les Français marqués par les États-Unis.
Une inauguration qui aura lieu quand à peu près ?
2016.
D'accord. Alors, une dernière question qui a été envoyée par Twitter à Monsieur Starkey. Qu'en est-il de l'acquisition du... Alors, je ne connais pas le sujet. Hein, de l'acquisition du secrétaire aux enfants marins du comte d'Artois.
Ah bah ça, c'est une chose que nous avons faite l'année dernière. Alors, il est en restauration. Donc, l'acquisition s'est réalisée. C'est une de ses œuvres qui avait quitté la France au moment de la Révolution française. On a trois catégories d'œuvres, hein, au moment de la Révolution. On a les œuvres qui sont ordinaires, on va dire, qui sont vendues sur place. On a les œuvres qui sont réservées par la République à être vendues à l'étranger. Et puis, il y a certaines œuvres qui restent dans les résidences ou qui sont envoyées, mais qui ne sont pas du tout vendues, qui sont les plus importantes. Alors, on a par exemple à Compiègne quelque chose qui est resté, qui sont des tables avec les représentations des résidences royales, qui sont faites des consoles créées pour Louis XV et qui sont restées pendant toute la Révolution à Compiègne. Et puis qui, à un moment, ont quitté Compiègne pour être à Versailles, où elle se trouve toujours. Il y a ce secrétaire, donc, du comte d'Artois, qui a été vendu, et comme beaucoup de ses œuvres, qui est tout de suite parti en Angleterre, et que nous avons pu racheter récemment. C'est une pièce exceptionnelle, dans la mesure où c'est vraiment ce style de fin de l'époque Louis XV.
Qui est l'auteur ?
RVLC.
Emmanuel Starkey, merci d'avoir participé à cette émission. Et donc, nous nous retrouverons la semaine prochaine, donc jeudi, je pense que c'est le 2 octobre, où nous recevrons Sébastien Allard, nouveau directeur du département des peintures du Musée du Louvre. Merci, au revoir.